Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Ravi de vous retrouver pour ce journal du classique spécial Festival de Pâques d'Aix-en-Provence depuis le hall du Grand Théâtre de Provence. Merci au public pour sa présence. Le public y assiste donc comme chaque jour à l'enregistrement de ce journal du classique. Et merci à notre invité Thierry Weber, bonsoir.
Bonsoir Jean-Michel.
Alors vous êtes chef d'orchestre, directeur artistique de l'association Parthémus, qui est une structure de médiation de la musique, et c'est aussi d'ailleurs un ensemble orchestral, on va en parler. Et vous participez pour la première fois à ce festival de Pâques d'Aix-en-Provence, et plus précisément au volet Musique en partage, avec un spectacle pour enfants, Symphonie pour petites oreilles, qui sera donné dimanche prochain, le 31, ce sera le dimanche de Pâques au Grand Théâtre de Provence, 10h, 11h et midi, ici même donc, et puis le lundi de Pâques à Marseille, au Théâtre des Bernardines, et puis d'autre part, c'est vous qui allez animer ce qui est devenu maintenant un incontournable du festival, c'est le fameux rendez-vous, le maestro, c'est vous, c'est sur la place Richelme à Aix en Provence, à 15h30, ce rendez-vous où le public est invité à diriger l'orchestre, en l'occurrence, ce sera votre orchestre. Alors, avant de parler de tous ces rendez-vous, la médiation de la musique, quelle est votre définition de cette activité pédagogique? Vous avez une heure pour y répondre, qui est en plein essor maintenant.
Oui, c'est vrai que c'est en plein essor, et en même temps, définir la médiation de la musique, c'est pas évident, parce qu'elle prend toujours des formes, et même des définitions différentes. Moi, j'ai l'impression que c'est un ensemble de dispositifs, en fait, qui permettent d'aller à la rencontre du public, notamment de celles et ceux qui pensent que la musique classique, notamment, n'est pas faite pour eux. Donc voilà, c'est un ensemble, la médiation de la musique, je dirais que c'est des dispositifs qui permettent, effectivement, de sensibiliser, de faire naître finalement les émotions de la musique.
Mais donc c'est pas uniquement pour les enfants, même si le spectacle qui vous a été commandé c'est vraiment pour les petits-enfants, hein, ça va de 6 mois à 4 ans, mais lorsque vous dites du public qui pense pas que la musique est faite pour lui, ça peut être aussi des adultes.
Ah oui, ça peut être des adultes, et puis toutes les sortes de personnes finalement qui constituent nos sociétés. Il faut dire que la médiation de la musique c'est aussi quelque part une résurgence, une réminiscence plutôt des droits culturels, et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est bien précisé que chacun, chacune a le droit finalement de bénéficier de la musique. En tout cas, c'est un droit fondamental de pouvoir bénéficier de la musique ou des arts en général, et de la culture.
Alors, au-delà de ce droit, le but de la médiation de la musique, quand vous adressez à des enfants, c'est d'en faire plus tard des artistes, des chanteurs, des instrumentistes, ou alors simplement de leur faire découvrir la musique pour qu'ils l'écoutent plus tard et qu'ils aillent éventuellement au concert ou qu'ils achètent des disques.
Mais moi, j'ai l'impression que dans nos vies, et c'est pareil, c'est un sentiment partagé par chacune et chacun, on n'a pas de manque pour ce qu'on ne connaît pas. Et du coup, peut-être qu'un des buts du jeu aussi de ces médiations, là en l'occurrence pour les tout-petits, c'est de leur faire goûter, finalement, de leur faire goûter, de les sensibiliser, de leur montrer comment est-ce que la musique, qui est un langage non verbal, est capable de formuler des ressentis, de nous faire prendre en fait des émotions, même sans dire de mots. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez important en fait dans notre société où tout va vite. Prendre le temps, écouter, et puis finalement se permettre de rêver ou d'imaginer.
Alors comment vous adressez, on va parler de ce spectacle Symphonie pour Petites Mains, donc c'est une commande du festival, vous l'avez créé, vous avez écrit les textes à partir de musique composée par Jean-François Verdier, qui a été clarinette solo à l'orchestre de l'Opéra de Paris, puis qui est actuellement le chef d'orchestre de l'orchestre Victor Hugo de Besançon. Les musiques, c'est ça, c'est Anna, Léo et le gros ours de l'armoire, je crois, c'est son...
Oui, notamment. Oui. Et puisque aussi, il y a quelques de musiques de Jean-François qui s'intitulent les cartes postales, mais qui sont dans les mêmes esthétiques. Alors, comment est-ce qu'on a fait ce concert? Bon, d'abord, vous avez raison, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge de réussir à créer un concert innovant pour des enfants de 6 mois à 4 ans, pour permettre justement d'entrer dans la musique, d'avoir des ressentis. On sait bien que les bébés, puisqu'on parle de bébés, en fait...
6 mois, là, oui.
Ouais, exactement. finalement, eux, ils perçoivent le monde avec leur sens. Et donc, pour nous, tout le challenge, c'était non pas de créer des discours, mais de créer vraiment des expériences. Des expériences autour du son, autour des sons, qu'on les entende, qu'on essaie de les toucher, qu'on essaie de les modeler, qu'on essaie de les rêver. Et donc, c'est comme ça qu'on a construit, en fait, ce concert destiné aux tout petits. Finalement, en injectant pas mal de stratégies qui permettent la rencontre, de stratégies qui vont de la scène, du placement du public, du dispositif de placement, des musiques choisies, comme vous l'avez dit, mais aussi tous les contenus pédagogiques qui favorisent, en fait, cette appropriation.
Mais c'est effectivement ambitieux de s'adresser aux enfants de 6 mois à 4 ans, parce qu'il y a un monde entre 6 mois et 4 ans, et à 4 ans, il y a déjà des enfants qui sont susceptibles de jouer d'un instrument. On a reçu tous les jours des artistes qui ont commencé le violon, par exemple, à 4 ans, quoi. Ouais, alors juste. Comment vous adaptez à ces deux catégories?
En fait, ce concert dure 30 minutes et il est construit pour que les enfants par exemple les enfants de 6 mois fassent leurs apprentissages dans les 10 premières minutes. Et en fait, on a étalonné finalement toutes les pistes pédagogiques tout au long de ce spectacle pour qu'ils correspondent finalement au temps d'appropriation, au temps de concentration aussi de tous ces bébés, parce que oui, vous avez raison, aller de 6 mois à 4 ans, c'est un éventail hyper large par rapport aux, encore une fois, au dispositif pédagogique ou d'appropriation.
Et j'ai lu aussi que les instrumentistes, justement, s'adaptaient aux réactions des enfants, des bébés, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de partition véritablement. Enfin, si, la musique est écrite, mais ils s'adaptent.
Oui, complètement, ouais. Ils s'adaptent. D'ailleurs, c'est pour ça que cet ensemble est assez particulier. C'est que finalement, les musiciennes et musiciens qui le composent sont certes des excellents instrumentistes, mais c'est aussi tous des pédagogues qui sont vraiment tous aguerris aussi à la sensibilisation du langage musical. Ce qui veut dire que, par exemple, pour permettre ça, pour permettre une circulation autour des enfants, pour permettre, tous les musiciens ont appris leur partition par cœur. Alors, évidemment, les musiques durent pas 15 minutes. Chaque petit extrait
dure... C'est pas une symphonie.
C'est une symphonie.
Une petite symphonie, voilà. Pour petite
sorelle. Mais en tout cas...
C'est pas une heure de musique, c'est pas malheur.
Non, c'est
quoi,
pas malheur. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, les temps sont courts. Donc, ils ont tout appris par cœur. Et en même temps de jouer, aussi, ils font quelques chorégraphies. Alors, ils sont pas en train de faire le French Cancan, mais en tout cas, ils sont en train de passer entre les rangs pour que chaque enfant, à la fin du spectacle, ait pu être à côté de chaque instrument, en fait.
Alors, on va écouter un petit peu de musique. Vous allez me dire, est-ce que c'est une musique pour enfants? C'est Schumann, scène d'enfant. Alors, il faut rappeler ce que disait Schumann de cette musique. Scène d'enfant, je les ai conçues par un grand enfant comme souvenir pour des personnes qui ont grandi. Non, ouais. Ça n'entre pas dans votre... Non.
Non, mais non. En tout cas, qui peut déclarer qu'il n'est pas vraiment un enfant, en fait, aujourd'hui?
Voilà, il avait raison, finalement, Schumann. Alors, les scènes d'enfant, c'est Rêverie, justement. Martha Argerich au piano.
Thank you.
Robert Schumann, les scènes d'enfants rêveries jouées par Martha Argerich, qui est une habituée du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. C'est le journal du classique depuis le hall du Grand Théâtre de Provence. Et l'invité est Thierry Weber, donc chef d'orchestre, directeur artistique de l'association Parthémus, qui est une structure de médiation de la musique. La méditation, ça je ne sais pas, mais la médiation c'est certain, un petit peu quand c'est même. Sûr. On médite un peu
oui, sur
la musique.
Sûr.
Bon, et c'est aussi un orchestre et vous participez à ce volet donc musique en partage avec Symphonie pour petites oreilles. C'est un spectacle pour enfants qui vous a été commandé par le festival. C'est votre première participation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette dimension? C'est votre job, on va dire, de toute façon.
Oui,
mais qu'est-ce qui vous
sûr.
A donné envie de venir ici participer à ce festival de Pâques?
En vrai, c'est le challenge. Parce que lorsque Dominique Bluzet et Renaud Capuçon sont venus me proposer, en fait, justement d'intervenir dans ce festival, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était le fait de traiter l'accessibilité. Vous avez raison, c'est mon job. Je fais ça au quotidien à la Haute École de Musique de Lausanne auprès des étudiantes et des étudiants. Mais ce qui m'a aussi fortement intéressé, c'est le côté de mêler à l'accessibilité l'excellence. Parce que parfois, on peut imaginer que parce que les concerts sont destinés à certains publics, alors on va pas être forcément sur une excellence toujours d'interprétation, de programmation. Et en fait, là, ici, pour le Festival de Pâques, c'est tout le contraire. Et vraiment, ça m'a plu, en fait, de pouvoir mêler ces deux attributs, parce que, créer l'accessibilité, et dans ces conditions-là, c'est aussi faire preuve d'excellence. Et donc, pour moi, c'était quelque chose qui était très motivant.
Alors, quand vous parlez d'excellence, justement, est-ce qu'une des solutions, c'est pas non plus d'emmener les enfants au concert et à partir des expériences que vous avez, souvent les gens se disent, mais il est trop jeune, etc., les parents pour emmener leur enfant au concert. À quel âge on peut commencer à aller au concert? Est-ce qu'il y a un âge d'ailleurs ou pas?
Je crois pas. À partir du moment où les enfants sont les bienvenus, ou pas que les enfants, encore une fois, tous ceux qui sont plus ou moins éloignés de cette culture-là. Non, je pense que c'est très important finalement, non pas comme vous le disiez tout à l'heure pour fabriquer les futurs spectateurs ou spectatrices, mais déjà pour nourrir un capital culturel. Parce que finalement, pour avoir un choc esthétique dans nos vies, pour être séduit par une symphonie de Mahler et pour rester béat d'admiration, on prend pas souvent conscience qu'il y a tout un capital culturel qu'il faut nourrir avant pour avoir un choc esthétique. Et c'est la raison pour laquelle ces concerts en fait existent. C'est non pas encore une fois pour transformer d'un seul coup de baguette magique les enfants en futurs spectateurs ou spectatrices. Si c'est le cas, tant mieux. Mais ça se saurait si on retournait dans les salles de musique, parce qu'on a entendu une fois un Pierre et le Loup dans notre vie. Je crois qu'il faut en fait réussir à avoir une politique d'infusion. Le but du jeu, c'est ça, c'est l'infusion. C'est vraiment que la musique rentre dans la vie des gens et puis qu'elle paraisse normale et non pas élitiste ou placée pour telle ou telle.
Je pense qu'elle n'est pas élitiste, la musique classique.
Non, je crois pas qu'elle le soit, mais par contre, elle peut le paraître.
Oui.
Parce que encore une fois, si on n'est pas sensibilisé, si on n'a pas les codes, encore une fois, rentrer dans une musique. N'oublions pas qu'aujourd'hui, une musique, ça dure 3 minutes souvent et ça a des paroles. Et nous, on fait des musiques qui sont longues et qui n'ont pas de paroles. Et donc, il y a toute une
éducation. Il y en a quand même un peu.
Oui, hein, bien sûr. ce que je veux dire par là, c'est que souvent, finalement, on n'a pas cette éducation-là et cette sensibilisation. Et c'est le but de ces programmes. Permet peut-être un jour ou l'autre de se dire, oui, j'ai envie de rentrer dans une salle de concert, aller écouter la cinquième de Mahler.
Et vous, mais c'est très bien, c'est une bonne idée. Et vous avez d'autres programmes, justement, c'est ça l'association Parthémus, là c'est Symphonie pour petites oreilles, mais vous avez d'autres, effectivement, d'autres concerts qui s'adressent aussi à un public un peu plus âgé.
Oui, bien sûr, alors un peu plus âgé, en fait, on fait des concerts. Bon, d'abord, Parthémus est établi à Lausanne, et puis on fait pas mal de concerts dans les écoles, parce que l'école publique a besoin aussi de sensibiliser les enfants, et par la qualité, donc on a beaucoup de programmes qui tournent dans les écoles. Et puis, on a aussi des capsules vidéo qui passent à la RTS, c'est-à-dire à la Radio-Télévision Suisse, qui sont autour, alors peut-être pour les plus grands, mais voilà, on sensibilise au quatuor à cordes, on sensibilise autour d'une histoire qui s'appelle Jazz Noisette, qui est casse-noisette, mais revisité par le jazz. Et puis, on a différents programmes aussi, et puis des programmes de clé en main, on va dire, qu'on propose aux orchestres et aux structures, aux institutions culturelles, en fait, pour avoir des médiations de la musique de qualité étayées pédagogiquement et qui permettent vraiment en fait au public de vivre une expérience esthétique.
Alors, on va écouter de la musique à nouveau. Dans la thématique enfantine, il y a le choix. Hein. On a écouté tout à l'heure les scènes d'enfants de Schumann, et on va écouter les jeux d'enfants de Bizet, la version orchestrale. C'est le galop, et c'est l'orchestre de Paris, Paavo Järvi. Galop qui est extrait des Jeux d'enfants de Bizet, l'orchestre de Paris est dirigé par Paavo Järvi. C'est le journal du classique depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Nous sommes dans le hall du Grand Théâtre de Provence et notre invité ce soir est Thierry Weber. Vous participez à ce volet musique en partage du festival de Pâques avec d'une part donc symphonie pour petites oreilles, c'est un spectacle pour enfants 6 mois 4 ans. On redonnera les dates tout à l'heure, ça approche, c'est le week-end de Pâques. Et puis par ailleurs, et là ce sera aussi une première expérience parce qu'on le rappelle, c'est la première fois que vous participez au festival de Pâques, vous allez animer ce fameux rendez-vous. Le maestro, c'est vous, c'est en plein air. Déjà, alors on croise les doigts pour qu'il fasse beau ce week-end. C'est sur la place Richelme à Aix, samedi à 15h30, et le public est invité à diriger l'orchestre. Alors, comment ça se passe, vous qui êtes chef d'orchestre? Moi, j'arrive, par exemple, je ne sais pas du tout lire la musique, vous mettez des instrumentistes en face. Comment je bats la mesure? Et comment je les dirige pour qu'ils soient ensemble, qu'il se passe quelque chose d'harmonieux?
Ouais, déjà ça se passe bien, j'espère.
Vous êtes optimiste, hein?
Bien sûr. Et comment ça se passe? C'est une rencontre, en fait. C'est une rencontre, vous avez raison, pour les passants, ceux qui sont dans la rue et qui vont sans doute être interpellés par un ensemble instrumental qui est en train de jouer des standards de la musique classique. Je pense évidemment à l'Arlésienne, je pense évidemment...
Ça, vous avez choisi les œuvres.
Ouais, ouais, justement, sur la programmation, pour vous dire aussi les stratégies qu'on a décidé d'adopter, parce que, à mon avis, c'est une des clés aussi de ce programme, c'est-à-dire... avoir des œuvres patrimoniales comme Carmen, comme Casse-Noisette, comme
l'Arlésienne,
évidemment. Pas très bien, oui. Et puis ça, c'est des œuvres qui vont me permettre de faire entendre et de présenter l'orchestre, les registres de l'orchestre, les vents, les bois, les cuivres, les cordes. Et puis ensuite, en fait, effectivement. On va commencer sans doute par inviter les gens du public à venir jouer quelques percussions. Qu'est-ce que serait l'ouverture de Carmen sans la grosse caisse ou les cymbales? C'est vraiment emblématique finalement. Donc on va les guider à réussir à jouer d'abord avec nous et puis ensuite effectivement avoir quelques personnes du public qui vont venir et puis qui vont découvrir en fait à quoi ça sert un chef, parce que c'est vrai.
Alors
que...
grande question.
Ah ben ouais, mais je crois que on est plus d'un à se demander à quoi ça sert. Mais en tout cas, leur montrer l'influence sur un tempo, l'influence sur des nuances, l'influence peut-être même sur un phrasé.
Créer et puis, le son, quoi.
Exactement.
Créer la musique. Ouais.
Et puis, au fur et à mesure, en fait, on va panacher les œuvres patrimoniales avec d'autres œuvres qu'on a choisies stratégiquement aussi, des œuvres de pop, des chansons de pop qu'on a fait réarranger, en fait, pour montrer, par exemple, c'est quoi une fugue si on prend un thème de Lady Gaga et qu'on on en fait une fugue. Qu'est-ce que ça donne? Donc on a fait réorchestrer, réarranger, et puis on a fait la même chose en fait avec par exemple l'œuvre de Police Roxane, mm-hmm. qu'on trouve aussi dans Moulin Rouge, ou en fait qui va nous permettre de découvrir ce que c'est qu'une cellule rythmique, ou alors on va aller faire un tour du côté de Billie Eilish, ou alors on va aussi aller faire un tour du côté de Coldplay. Tout ça pour connecter finalement aussi les œuvres, qu'elles soient d'hier ou qu'elles soient d'aujourd'hui, pour montrer que, encore une fois, c'est juste de la musique et que cette musique, elle permet de prendre du plaisir, de la faire ensemble et puis de l'écouter, mais qu'en fait, il n'y a pas forcément de distinction et entre
les deux. Il n'y a pas de frontière.
Exactement.
C'est ça, ouais. C'est ça. Toujours dans cette même démarche, effectivement, montrer que la musique classique, ben voilà, c'est accessible.
Oui, et de la partager surtout. Voilà, tout à l'heure, vous parliez de Partemus. Oui, c'est la contraction de partager.
Alors c'est ça, voilà, c'est pas du tout du latin.
Hein. Non, du
on
tout.
Est d'accord. C'est le partage de la musique.
Partager c'est la musique, ça fait voilà. Partemus. C'est classique, mais finalement, c'est vrai que souvent, on croit que c'est du latin, mais non, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, pour nous, c'est important de pouvoir marquer ça. C'est aussi une des règles de ce festival, en fait, d'aller au devant des publics là où ils se trouvent, et s'ils se trouvent dans la rue sur une place, et ben alors allons-y et puis partageons avec eux.
Alors on va écouter une troisième musique, j'espère que ça va vous plaire. C'est Mozart, le concerto pour corps numéro 2, le troisième mouvement, Armand Baumann avec l'orchestre de chambre de Saint-Paul dirigé par Pinchas Zukerman. On parlera, je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi
très
ça.
Bien,
mais vous avez dîné, je pense. Le journal du classique spécial Festival de Pâques d'Aix-en-Provence avec notre invité Thierry Weber. Et à l'instant, nous écoutions le troisième mouvement du concerto pour corps numéro 2 de Mozart, Armand Baumann au corps, l'orchestre de chambre de Saint-Paul dirigé par Pinchas Zukerman. Ça va, le choix vous convient?
Oui, Thierry tout à fait, Weber, bravo.
Bon. Grand corniste Armand Baumann qui est
décédé. Ah, lui, oui.
Voilà, absolument. Pourquoi lui?
C'était pas la
Pourquoi
même chose pour moi.
Voilà, c'est là où je voulais en venir, parce qu'avant de vous lancer dans la médiation de la musique, vous avez été corniste pendant une dizaine d'années à l'Orchestre de l'Opéra de Dijon, parallèlement aussi à la musique de l'Armée de l'Air. Et à quel moment vous avez décidé de vous lancer dans la médiation culturelle, et la médiation de la musique?
Je crois que mon chemin était déjà tracé à partir du moment où, dès tout petit, j'ai commencé à jouer dans un orchestre d'harmonie au sein des pratiques amateurs, et dans lesquelles, en fait, parfois l'usage de la musique n'est pas le même que celui qu'on pratique dans les milieux professionnels. Et ayant suivi tous les cursus d'études musicales au collège, puis au lycée, et en ayant vraiment tenté de percer, d'en faire ma vie, je me suis je me suis aperçu de plusieurs choses. D'abord que le corps, c'est un instrument très difficile, et puis du coup que
Moi, j'étais quatrième corps à l'Opéra de Dijon, et faire ploum ploum, même si c'était très intéressant, il y a un moment donné où ça avait certaines limites, mais je salue tous les quatrièmes corps de France qui font ploum ploum toute leur vie, parce
qu'ils sont
franchement,
indispensables,
mais ouais, c'est une quête, leur vie, ouais. Et ils font pas que ploum ploum, évidemment, mais vraiment, enfin voilà, mais moi ça me plaisait pas, et puis aussi suite à une rencontre de en fait du professeur qui était prof au conservatoire à Paris, André Cazalet, avec qui
corps solo de l'orchestre de Paris.
Exactement. Grand corniste et grand pédagogue aussi, et qui m'a conseillé un jour de passer à autre chose aussi.
Ah bah oui, en effet, oui.
Ah non, mais avec beaucoup de bienveillance. Ouais, ouais. C'est des messages qu'il faut savoir entendre. Et puis à cette époque-là, j'ai commencé aussi la direction d'orchestre, ce qui fait que il m'a encouragé à suivre cette voie-là. Mais vous voyez, quand on fait direction d'orchestre avec cette envie de transmettre et de partager, et puis que les choses fonctionnent, en fait, moi j'ai cultivé cette identité un peu de passeur de musique, en étant encore une fois sur des valeurs que m'ont inculqué les pratiques amateurs. Et puis c'est tout naturellement après que j'ai rejoint en fait l'université Sorbonne pour suivre un cursus autour de la médiation de la musique, qui m'a permis de m'ouvrir au niveau universitaire à d'autres concepts, c'est-à-dire à la théorie. Moi j'étais un praticien, ça m'a permis de connecter à la théorie, et puis en fait derrière, effectivement, de cultiver un geste, celui d'être capable de diriger, de commenter les œuvres, de créer des dispositifs et de mener en fait ces actions qui vont au devant des gens.
Et vous jouez encore un petit peu?
Absolument pas.
Vous avez
Non, je joue plus. Et il faut dire aussi que ça devenait délicat à un moment donné, parce que j'étais effectivement corniste à l'Opéra à Dijon, et puis ensuite j'ai eu mes premières chances de diriger à l'Opéra de Dijon, donc je me suis retrouvé à diriger mes collègues, voire même les profs qui m'avait en fait éduqué à la musique, et c'était difficile de retourner dans l'orchestre après.
Eh bien, nous sommes déjà arrivés au terme de ce genre de la musique classique. Merci Thierry Weber. Donc on rappelle, tous ces rendez-vous, ils sont nombreux, vous avez de quoi noter. Alors on y va. Donc c'est le spectacle pour enfants, symphonie pour petites oreilles. Donc c'est une commande du festival de Pâques d'Aix-en-Provence dans le cadre de Musique en partage. Ce sera donné dimanche, le 31, dimanche de Pâques, au Grand Théâtre de Provence, ici même. Il y a 3 rendez-vous, ça dure une demi-heure, vous l'avez expliqué, pour les enfants de 6 mois à 4 ans, 10h, 11h et midi. Et le spectacle sera redonné le lendemain, le lundi de Pâques, à Marseille, au Théâtre des Bernardines. Et puis l'autre grand rendez-vous, ça c'est après-demain, samedi, sur la place Richelme à Aix-en-Provence, 15h30. Le maestro, c'est vous. Merci une nouvelle fois Thierry Weber. Merci au public d'être venu assister à ce journal du classique. Merci à Aurélie Messonnet pour la réalisation. Merci aux équipes du Festival et du Grand Théâtre de Provence, et en particulier à Marie Lanzafam et à Amélie Rivaille pour l'organisation du Journal du Classique. Journal qui sera présenté demain par Laure Maison. Elle vous donne rendez-vous à 13h, demain 13h donc, pour l'enregistrement de ce Journal du Classique. Et elle recevra Andrea Marcon, qui dirigera demain soir La Passion selon Saint-Jean de Bach. Votre soirée se poursuit en compagnie de Francis Drezel. Bonne soirée avec Radio Classique.